Zéro Micro, l'émission de ceux qui réduisent leurs émissions. Envirobat Occitanie, centre de ressources et réseau d'acteurs du bâtiment et de l'aménagement durable, lance sa série de podcasts Enviromicro. Notre objectif, aller à la rencontre des acteurs qui, par leur pratique, contribuent à la transition énergétique et environnementale de nos bâtiments et de nos territoires.
Épisode 3, professionnels de la rénovation. Comment structurer une offre globale ? Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à la manière de structurer des offres globales en rénovation. Poussé par la nécessité de réduire drastiquement les consommations énergétiques de nos logements, les rénovations d'ampleur sont particulièrement favorisées par les dispositifs d'aide financière. Mais comment répondre à cette demande croissante de rénovation que l'on dit globale ? Dans un paysage d'acteurs professionnels principalement composé de petites entreprises artisanales, qui n'en sont pas moins compétentes et en tous les cas indispensables pour relever le défi, existe-t-il des solutions pour assembler tous ces savoir-faire ? Nous découvrirons dans ce podcast deux structures inspirantes qui pourraient bien vous faire changer d'avis sur les groupements d'entreprises. Nous sommes à Carbonne, en Haute-Garonne, et je pousse la porte du collectif d'artisans du Sud Toulousain, le CAST 31, où je viens rencontrer Sophie, chargée de projet, Julien, installateur de solutions bois et solaire, et Florian, charpentier. Tous les trois font partie du CAST 31. Sophie, peux-tu nous présenter le CAST 31 ?
Alors, on est sur une association, donc format le plus basique, loi 1901, qui existe depuis 10 ans et qui rassemble 14 membres, donc principalement des artisans, tout corps d'État sur le secteur du sud toulousain. Et notre plus-value, c'est d'essayer de proposer une offre globale avec des gens qui travaillent ensemble de la même manière, avec des valeurs de respect, du client, du travail bien fait, respect de planning, et aussi on essaye aussi d'orienter sur tout ce qui est éco-responsable dans les matériaux, la gestion du chantier.
Et sur la, on va dire la gouvernance d'entrée, peut-être sortie donc, des entreprises, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous avez un collectif, un comité de suivi, enfin, comment vous décidez qu'un tel peut entrer ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire non, lui doit sortir parce qu'il n'est pas encore avec les valeurs, avec notre façon de travailler ? Comment ça fonctionne ?
Déjà au départ, on a une charte qui a été faite il y a quelques années, que toutes les entreprises connaissent. Elle n'est pas très complexe, la charte, mais elle fixe quand même quelques règles pour que les, notamment en termes de valeur d'implication dans l'entreprise, parce que ça sert de base quand même pour savoir, pour pouvoir respecter certaines choses si on veut aller chercher d'autres entreprises ou éventuellement se séparer d'entreprises, c'est quand même une base de discussion. Pour que les entreprises, les nouvelles entreprises ou enfin, des artisans seuls rentrent dans le CAST, il y a deux étapes. Enfin, il y en a trois, on va dire. La première, c'est que déjà, on va chercher la personne et lui présenter sommairement le CAST. La deuxième étape, c'est donc souvent ça passe, c'est souvent le bouche à oreille. Quand on dit qu'on est des artisans, je pense que dans le sens noble du terme, et notamment ce volet-là, local, bouche à oreille, réseau, etc. Donc souvent, quand même, ces entreprises-là viennent de toute manière par le biais d'une des entreprises du CAST. Ça, c'est la première étape. Cette entreprise du CAST va en parler à votre collègue. On propose de voir la personne là où les personnes à plusieurs. Souvent, c'est 3-4 entreprises du CAST qui reçoivent le potentiel entrant. Et on donne notre avis, on le soumet aux autres et on prend la décision. Bon, ça se fait quand même assez simple. Souvent, quand une entreprise est proposée par un des membres, c'est que déjà de base, c'est le roumba. C'est comme une grande famille, donc tu ne vas pas proposer quelqu'un si tu vois qu'il n'est pas en accord avec le fonctionnement ou les valeurs du collectif.
Il y a l'épreuve du barbecue aussi. L'ambiance qu'on
vit. Oui, la convivialité. Oui.
C'est dit sur autant de mots, mais ça fait autant. En fait, je crois qu'aujourd'hui, ça fait quelques mois, quelques années, qu'heureusement, les entreprises du CAST n'auraient pas spécialement besoin du CAST pour travailler. Parce que on a tous, un certain nombre d'années derrière nous, maintenant, qu'on a passé, je pense, les mois les plus durs. Donc aujourd'hui, si on le fait, il y a plusieurs raisons, on en parlait tout à l'heure, mais une des raisons, ce qu'il faut et est important, c'est qu'on le fait avant, quand même, je ne sais pas si c'est pas la raison, pour se faire plaisir. Quoi. Alors pour apporter quelque chose de peut-être de nouveau et de cohérent pour le client, mais aussi beaucoup, beaucoup pour nous, en fait, pour se faire plaisir, travailler avec les gens qu'on apprécie, et au-delà, voir tout ce qu'il y a à côté. Quoi. Les repas qu'on fait ensemble, quelques sorties de temps en temps, voilà, ça. Parce que, en fait, c'est ce qui manque sur le bâtiment général, notamment dans l'artisanat, quand bientôt les gens ne se connaissent pas, en fait, c'est qu'on a vite fait de se zapper, de s'oublier, ou de pas, ou pire, de pas être sympa les uns les autres. Donc forcément, quand tu travailles avec les gens, quand tu connais un minimum, avec qui tu vas partager d'autres choses, ça t'incite, en fait, à faire plus que nécessaire.
Ouais. Et la complicité, elle aide vachement aussi sur la fluidité en fait du chantier quoi. Voilà. Une communication facile, si le téléphone il sonne, pour nous c'est quelqu'un du CAS, c'est réponse à 100% quoi. C'est pas je rappellerai ce soir ou je voilà, on essaye de démerder le truc le plus vite possible pour que ça. Voilà. C'est la priorité, c'est le chantier du collectif quoi.
Et après hors chantier. Donc on parlait du test du barbecue, mais ça veut dire qu'en fait, hors chantier, ça vous apporte quelque chose aussi ou...
Nous, on fait des réunions qui sont on va dire, plus régulièrement possible, mais c'est, voilà, faut que tout le monde soit disponible aussi. Et ces réunions, elles ressemblent plus voilà, à un barbecue entre amis qu'à... Et la partie réunion sérieuse va durer une heure, le temps de vraiment parler du sujet du moment. Et puis derrière, on passe l'après-midi ensemble. Et voilà, c'est vraiment le test du barbecue, c'est un vrai truc du bâtiment. Et c'est là qu'on se parle et qu'on apprend à se connaître. Et puis ça fait, c'est ça qui fédère un groupe aujourd'hui. Quoi. Mmh. Et ça a une vraie importance. Quoi.
Est-ce que vous pensez que justement cette forme groupée permet d'améliorer la confiance? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une crise de confiance un petit peu généralisée entre le particulier et son artisan dans le bâtiment, un peu comme avec son garagiste, il a toujours peur de se faire avoir. Là, le fait que vous soyez en mesure de proposer tout un panel de solutions, le particulier il va se dire, bon, ouais, que ce soit une pompe à chaleur ou un poêle ou une autre solution, finalement, ça retombe quand même dans les mains du CAST, entre guillemets. Donc, est-ce que ça vous donne une certaine neutralité qui génère un peu de confiance avec le particulier?
Ouais, quand ça vient déjà de par le bouche à oreille, c'est certain. Yeah. Parce que, voilà, ça... Et après, je pense quand même que c'est un gage de confiance.
Ouais. Oui, c'est un écho qu'on a des clients. Oui, puis ça, de ne pas être parti pris.
Oui.
On le présente aussi comme le fait qu'on soit tous liés les uns aux autres, donc quelque part un peu responsables les uns des autres. Et ça, je pense qu'en termes de confiance, effectivement, sachant que dans le CAST, c'est uniquement les entreprises artisanales d'un secteur géographique donné, ils savent tous nous trouver. Quoi. Voilà. On n'est pas sur un salon là, parce qu'aujourd'hui, on est quand même en concurrence beaucoup avec notamment de la rénovation énergétique, avec de l'entreprise très commerciale.
Oui.
Que tu ne sais pas situer et sous-traitant, c'est pas pour autant que c'est mal fait, mais n'empêche que cette relation-là de proximité, et nous demain, un client n'est pas content, il vient, il sait où nous trouver, quoi. Il n'a qu'une porte à ouvrir et s'il veut. Voilà. Et ça, c'est quand même. Et c'est pareil pour toutes les boîtes du CAST. Donc, ça, en termes de confiance aussi, Sophie représente un mouvement d'entreprise artisanale et locale. Et ça, par rapport à un commercial qui passerait d'une énorme structure qui va pratiquer de la sous-traitance, elle sait. Mettre un nom et un visage, mieux qu'un nom, un visage sur un métier, sur un interlocuteur. Et ça, c'est quand même pas rien. Notre plaquette, d'ailleurs, est pas mal orientée comme ça. Notre site internet aussi, il y a des personnes dessus.
Il y a des humains.
Et c'est les personnes sur la plaquette qui viennent faire le travail.
Ouais.
C'est pas des faux gens. Et il y a aussi le fait qu'on mise essentiellement sur le local. Et en rural, À la moindre, on se fait sniper, et en rural, ça va très très vite, le mauvais écho. Donc en fait, on n'a pas le choix, quoi. De toute façon, on va vers ça, nous, mais on paye très lourd les erreurs s'il y en a dans le secteur, quoi.
Voilà. Par rapport à la vie d'avant, hors casque. C'est quoi le avant-après, enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté, c'est une ou deux idées principales?
Alors nous, enfin, il se trouve qu'on a quand même des entreprises qui ont 15 ans, et déjà une entreprise qui a 15 ans d'existence, même toutes les entreprises, je pense, ça évolue en permanence, quoi. Donc c'est difficile. Là où je veux en venir, c'est que nous, ça fait 15 ans qu'on a créé l'entreprise, le cast a une dizaine d'années. En fait, le avant-cast, on n'avait que 5 ans d'existence.
Qui n'est pas comparable à ce qui est.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, 80% de nos clients, c'est bouche à oreille, quoi. Ce qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ans. Donc, c'est déjà, c'est difficile. Les conditions ne sont vraiment pas les mêmes. Voilà. Après, clairement, ce que ça apporte, clairement, c'est un confort de travail. En tout cas, on est conscient de ce que ce serait si on ne l'avait pas. Ça apporte une chose, beaucoup de renvois de contacts quand même, hein, c'est pragmatique, le fait de se connaître, d'avoir un gros collectif, mais c'est X contacts en plus, c'est X, tu existes au travers de 14 entreprises d'une seule, quoi. Ça c'est indéniable, donc au bénéfice, tu n'as quasiment que du bouche à oreille, hein, ça c'est quand même, mais je pense que si le cast n'était pas là, clairement on aurait beaucoup moins de bouche à oreille, ça c'est une certitude, hein. Et ce qui est quand même là, quand tu es une entreprise artisanale et locale, c'est quand même les meilleures façons de travailler, quoi.
Bah, 14 pour moins de bouche à oreille.
Ah, t'es 14 pour moins de bouche à oreille. Et ça, c'est bien. Puis après, il y a ce confort de travail qu'on peut chantier ensemble, qu'on n'aurait pas, se débrouiller, tous les arguments qu'on a voulu, se prêter du matos, etc. Bah, si tout ça, ça n'existait pas, aujourd'hui, on n'a pas conscience peut-être au quotidien, mais si tout ça, ça n'existait pas, bah, s'il devait avoir un avant-entrée dans l'autre sens, je pense qu'on prendrait un peu cher quand même.
Ouais. Moi, ce que je vois aussi, bah, depuis qu'on a mis, nous, le pied dans le cast, nous, on s'est monté, bah, pareil, une quinzaine d'années. D'arriver sur un secteur rural, quand on n'est pas du secteur rural, c'est compliqué. Les gens font confiance à l'artisan qui est connu par un tel qui fait du rugby, qui a bossé chez lui et compagnie. Et nous, on est arrivé d'ailleurs et on s'est implanté sur un secteur où on ne connaissait personne. Et en fait, on a fait beaucoup de Toulouse. Parce qu'à Toulouse, les gens prennent au moins 10 ans, ou voilà, il y a moins ce truc d'ancrage sur un secteur. Et en fait, ça a été pas instantané, mais si on prend le village dans lequel on est, on n'a quasiment jamais bossé en 10 ans sur ce village-là. On est rentré dans le cast, on a commencé à bosser sur le secteur. Et ça a été instantané, peut-être parce qu'il y a des gens du groupement qui font partie de ce village, et du coup, bah, comme ils en ont parlé à d'autres gens, bah, ça a ruisselé sur nous. Mais voilà, on n'était pas les charpentiers du coin, et on l'est devenu. En fait, grâce au groupement, on est vraiment devenu. On ne fait quasiment plus de route pour aller sur nos chantiers, on bosse en local, et ça, c'est énorme. Pour nous, c'est grandiose. Ouais, c'est ça. La qualité de vie, c'est ça. Ça a changé considérablement ça dans notre activité.
Et c'est lourd, cette structure associative à mettre en place au début et à maintenir après, maintenir en vie, etc.
Non, alors mettre en place au début, la question était surtout, une des questions au départ quand même qui était importante, c'était la responsabilité, l'engagement que ça crée entre nous en fait, d'un point de vue légal. En fait, alors on a eu la chance d'avoir Rémi qui cherchait un stage, je ne sais plus quelle
formation. Oui.
Sur ce thème-là, en fait. Donc Rémi est arrivé et il est resté auprès de nous 10 mois ou 10 ou 12 mois. Et du coup, ça nous a quand même vachement aidé à structurer le cas, et notamment aller chercher des infos sur des points clés comme ça. Notamment légalement, quelle implication on avait les uns les autres. Enfin, en tout cas, quelle responsabilité on avait les uns par rapport aux autres. Ceci, sur cette question-là, on a vu qu'il y avait X réponses et que c'était le genre de question importante pour laquelle tu ne te prends pas la tête parce qu'en fait, tu te dis que un jour ou l'autre, on peut toujours considérer que tu es agent de l'autre. Donc, on a dit, bon, cette question-là.
Même sans groupement, le fait d'être présent sur un chantier, on considère comme
ça. Non, mais ça, c'est clair. Si tu veux. Donc, on s'est dit, cette question-là, en fait, qui paraît hyper importante, elle l'est, mais en fait, t'as pas de réponse. Et puis, vu que quand tu es artisan dans des métiers de bâtiment, de toute manière, tous les jours, tu peux te dire, tu peux te remettre en question et te dire, attention, on veut qu'il y a quoi. Donc on s'est dit, au moment où on ne te gère plus, on y va, et puis à l'avant. Et ça, là-dessus, pour structurer le truc, quand même, Rémi a fait beaucoup de bien parce qu'il a permis d'écrire cette fameuse charte, de constituer l'asso. Après, c'est des statuts associatifs.
Ouais.
C'est vraiment rien de compliqué. C'est une assemblée générale. Il faut un président, un trésorier et un second ou un secrétaire. Le président, c'est celui qui s'est levé au moment, qui est parti aux toilettes.
Ou qui n'était pas là.
Ou qui n'était pas là. Souvent, qui n'est pas là.
Ce qui est important, c'est quand même que ça reste une asso. Ça veut dire que quand même, il faut que les rôles tournent et que tout le monde soit
impliqué dans la
vie associative.
Oui, c'est bénéfique. Parce que sans ça, en fait, l'asso n'existe pas. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment très léger. C'était le but de. On s'est aussi posé la question de passer sur un groupement d'intérêt économique, etc. Toutes ces questions-là, Rémi à l'époque avait pas mal bossé dessus. Et c'est là où on a dit pour l'instant, on va partir en format associatif. Le CAST est une association qui nous sert à la promotion de nos entreprises, une promotion collective. Et en fait, chaque entreprise contracte avec le client. Et on est resté sur ce format-là qui nous convient très bien, finalement, qui est léger, qui n'engage pas de coûts monumentaux pour les clients, etc. Et qui aujourd'hui porte satisfaction. C'est simple et efficace.
C'est simple à gérer.
Le fait que ce soit léger, c'est ce qui fait que ça tient aussi aujourd'hui. Quoi. Ouais. En fait, c'est décontracté parce que c'est pas une grosse machine de guerre. C'est léger et c'est pas chronophage pour nous. Et du fait qu'on le prend plus, comme on disait tout à l'heure, les réunions, pour nous, c'est des barbecues, c'est pas des réunions.
C'est pas réunion qui compte, c'est le repas midi.
Donc, on vient pas en réunion en se disant, ah merde, faut que je sois à l'heure, machin. Non. Les trois quarts du temps, il y en a la moitié qui arrive en retard. Voilà, c'est.
C'est envie d'être là, quoi.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de. Et puis, on connaît, on est tous des artisans, donc on sait tous qu'il y a des imprévus. Et puis, s'il y en a un qui est en retard, on s'en fout. Et puis, ce sera lui le prochain président. Et puis, voilà, quoi. Non, mais ça se passe réellement. Ça se passe réellement comme ça, en fait.
Oui.
Il y en a un qui n'est pas là, qui ça va être le prochain président. Et il reçoit 14 textos. Ah, bravo pour ton poste de président. et en fait, c'est. C'est comme ça que ça se passe, et du moment que ça peut rester simple comme ça et surtout pas chronophage, c'est bien quoi en fait.
Et puis après, t'as un bureau comme dans tout asso, mais après, c'est aux rencontres du quotidien, celui que t'as croisé qui avait une petite décision à prendre pour des choses qui concernaient l'Assemblée Générale, mais pour des choses du quotidien, ça peut se trancher à 3-4 parce que tu t'es croisé chez le dans le matériau, parce que t'as pris un café. On formalise pas tout non plus. Après, c'est de l'associatif, donc c'est de la bonne volonté. Il n'y a pas grand chose à faire, mais il faut le faire. C'est un peu de présence sur aussi des temps hors taf. Un petit événement un samedi, une réunion qui déborde un peu. Mais bon, voilà, il faut que ce soit léger, fun et que ça s'adapte à leur vie pro et à la vie perso. Quoi.
La présence, le minimum de présence, c'est important quand même. C'est vrai que.
Oui, ça, c'est important.
Toi, c'est ce qui transparaît depuis tout à l'heure, c'est que ça, c'est avant tout des personnes qui s'entendent bien. C'est la grosse base, elle est vraiment là. Et bien, pour bien s'entendre, il faut se connaître un minimum.
Il faut se côtoyer.
En fait, parmi les critères, par exemple, il y a vraiment la présence en réunion, à tout.
Oui, dans le recrutement.
Qui serait.
Un électron libre.
C'est vraiment jamais là, en fait, qui est là. C'est pas forcément une mauvaise personne, etc. Mais si elle a pas envie de s'impliquer un minimum à être là de temps en temps, c'est comme la famille. Enfin, je veux dire, ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Ça peut pas coller. Si la personne était très compétente, qui a fait un métier qu'on n'avait pas pour l'instant dans les corps d'état du CAST. Mais malgré ça, on va dire, cette personne-là, elle peut peut-être rayonner autour du CAST de temps en temps, on fait appel à elle comme ça. Mais en fait, elle ne sera pas là pour les autres, donc on ne considère pas qu'elle passe le mot.
Nous poursuivons nos échanges à Montpellier cette fois, où nous allons rencontrer Nils Potier, couvreur Zinger, et Laurent Frey, chargé d'accompagnement chez Créalide.
Laurent, peux-tu nous présenter Créalide ? Alors Créalid, c'est une structure coopérative qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi, coopérative d'activité et d'entrepreneurs. Créalid, nous sommes à Montpellier. C'est un groupement qui réunit une trentaine d'entrepreneurs, on appelle ça des co-entrepreneurs, qui ont tout un tas de métiers. Et parmi ces 300 entrepreneurs, on va avoir une cinquantaine chez Créalid, entrepreneurs dans le domaine du bâtiment, avec une partie artisan et une partie plutôt dans la conception, l'ingénierie, puisque nous avons des bureaux d'études, des gens qui travaillent dans l'urbanisme, des gens qui travaillent dans l'architecture d'intérieur, etc. Mais aussi donc des artisans comme Nils, qui travaille dans la rénovation énergétique, dans la toiture, dans la charpente. On fait principalement au niveau du bâtiment de la rénovation, mais on a quelques constructions neuves qui peuvent se faire par des ossaturiers bois. On a des entrepreneurs qui font de la construction bois. Et territorialement, pour la grande majorité des entrepreneurs, c'est gare Hérault, puisque bon, le siège social est en Montpellier, c'est là que se trouvent les entrepreneurs. Le rôle de Créalid, c'est de sensibiliser les professionnels du bâtiment qui sont chez Créalid, les artisans, à cette approche globale, cette approche aussi de d'éco-responsabilité, cette approche aussi sociale.
Et justement, ça, c'est une des valeurs ajoutées de l'offre globale. C'est effectivement le particulier. Il n'a pas forcément toute la connaissance et la compétence pour savoir dans quel ordre traiter les lots aussi. Parce qu'OK, il veut faire un anneau global, mais est-ce que ça sert par les menuiseries, par les murs, par le chauffage, par la toiture? Bon. Et ça permet quand même, de ne serait-ce que techniquement, de mettre les choses dans le bon ordre. Et puis aussi, d'avoir la relation avec les bons pros, d'assembler tout ça, c'est pas si évident. Et la question du coup qui vient derrière, c'est tout à l'heure Laurent, tu disais le client a un interlocuteur unique qui est Créalid. Mais humainement, c'est qui en fait, c'est une personne en particulier, c'est le premier co-entrepreneur avec qui le client entre en contact, ou vous avez un chef d'orchestre identifié sur les chantiers?
Alors, il n'y a pas de chef d'orchestre identifié, ça c'est projet par projet. Quand je dis un interlocuteur unique, c'est-à-dire qu'en tout cas, il a un numéro de téléphone, Créalid est joignable, la grosse structure elle est joignable. Après, d'un projet à un autre, si moi je trouve un client et qu'il y a une relation de confiance entre le client et moi, je vais être plutôt celui qui va être appelé par le client, qui va être là pour discuter avec lui, etc. etc. Après, là, il n'y a pas de règles particulières. On est plutôt sur de l'ergonomie de chantier et d'un projet à un autre, des fois, c'est plus facile que ce soit une seule personne. Parfois, c'est plus facile que ce soit plusieurs personnes qui parlent de leur partie, etc. Donc, c'est vraiment une entente. Mais ça se fait naturellement, en fait. Ça se fait naturellement. On ne cherche pas à imposer un fonctionnement, en fait.
D'accord.
J'ai un cas précis d'un client que je suis allé voir avant Noël, hein, avant la fin de l'année, où la personne m'a contacté pour venir voir une isolation de comble. Je suis reparti en lui expliquant que avant de lui faire un devis, ça serait bien de faire passer quelqu'un de la LEC, par exemple, parce que isoler cette maison sans voir après les fenêtres de simple vitrage qu'il avait, la maison dans son jus et tout ça, il y a peut-être autre chose à réfléchir en amont. Mais après, si vraiment la personne elle veut faire son isolation, je vais lui faire. Mais
il y a le devoir de conseil qui a été fait.
C'est important. Pareil pour d'autres aspects qui sortent de la rénovation énergétique. C'est-à-dire que quand on change des fenêtres, mais qu'on ne se pose pas la question de dire qu'est-ce que ça va faire au niveau du renouvellement d'air, je pense qu'on est à côté de son devoir de conseil. Et le fait de ne pas être un menuisier isolé dans son métier, etc., et de faire partie d'un collectif comme dans Créalid, on va discuter avec d'autres personnes qui lui disent mais tu sais, quand tu poses tes fenêtres, tout ça, moi, après, des fois, ça m'arrive d'aller sur des projets où il y a des moisissures qui apparaissent et tout ça, alors que moi, je fais de la ventilation et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est de la montée en compétence collective.
Donc, se tire vers le haut.
Indirectement, c'est des ateliers de co-développement qui ne sont pas estampillés comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça, en fait.
Et c'est vrai que je repensais à ma question de tout à l'heure, volontairement, pour voir s'il y avait
une limite, c'est-à-dire le surchauffagiste qui va peut-être devoir retarder son chantier, mais en fait, avec ce que tu disais, Nice, tout à l'heure, il y a l'inverse qui vient rééquilibrer les choses, c'est-à-dire que de la même façon, le fait d'être en réseau, on arrive aussi à avoir des chantiers qui arrivent de par les collègues.
Exactement.
Du coup, ça tourne comme ça, quoi.
Tout à fait. Et c'est plus facile à... Enfin, moi, je trouve plus facile à convaincre le client quand on parle d'un collègue, en fait. Parce que quand on lui dit, c'est peut-être intéressant que je vous envoie le gars qui fait les pompes à chaleur chez nous, que je vous l'envoie pour au moins vous discuter. Après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous discutez avec. Et c'est quand même plus facile parce qu'on a confiance, on sait que la personne, on la voit aux réunions, on sait que la personne, elle va avoir un discours qui va être en phase avec ce qu'on raconte. Il y a un effet d'homogénéité dans notre façon de faire qui fait que même si on ne va pas mettre un pistolet sur la tempe des clients, on va en tout cas les encourager très fortement à appréhender leurs projets et leurs travaux d'une façon globale et respectueuse du bâti, sans oublier leur usage, c'est-à-dire à quoi leur sert ce bâtiment, à quoi. Et donc en fonction de ça, ça peut aussi donner des solutions techniques qui peuvent varier. Et quand on a cette approche-là, on est un petit peu à côté de l'aspect commercial des choses et on répond non pas aux besoins de la personne, mais aussi à ses attentes. Et là, je crois qu'on n'est pas trop dans le faux, quoi, je pense.
Sur la valeur ajoutée pour les artisans, là, c'est bien qu'on ait Nils qui représente un peu la voix des artisans et des co-entrepreneurs, du coup. Est-ce que le fait d'intervenir ensemble, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que le fait d'intervenir ensemble avec potentiellement plusieurs co-entrepreneurs qui vont aller sur le chantier, mais cependant quand même issus de Créalite, donc d'un même réseau, ça permet d'être plus efficace ou d'avoir un meilleur confort au travail sur le chantier, confiance, ambiance au travail aussi, c'est important. Ça peut apporter ce genre de choses.
Oui, alors sur l'efficacité, je ne sais pas, ça dépend vraiment des collaborations. Après, oui, sur la confiance, parce qu'on appartient tous à la même entreprise, en fait, on fait partie, on est chacun une part de l'entreprise. Donc, oui, on se fait confiance et puis même, surtout, je dirais plutôt que même à titre individuel, ça nous donne même des responsabilités. C'est-à-dire qu'on est quand même, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi aussi, parce que du coup, on met un peu en péril la mise au collectif. Voilà. Donc, il y a aussi y a une sorte de bienveillance qui se met en place entre les entrepreneurs, aussi entre les encadrants, les référents. Moi, je suis assez content et fier d'appartenir à Créalite, parce que je trouve que justement ce collectif apporte au niveau du travail justement voilà, de quelque chose qui est plutôt positif. Ouais.
Et on parle aussi souvent de la lourdeur administrative qui semble augmenter pour les entreprises artisanales. Est-ce que le fait d'être dans un groupement de coopératives comme Créalite, ça permet d'avoir une forme de portage des activités administratives, de libérer du temps du coup?
Oui, complètement. C'est vrai qu'on est très bien encadré et du coup, ça nous facilite grandement la tâche. C'est surtout qu'on a accès à l'information très rapidement, très simplement. On fait un petit mail, un coup de téléphone. Ça, je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux le présenter comme ça? Hop, non, il faut plutôt faire comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de quand même très pratique et à vivre, c'est plutôt sympa. Après, ça, comme je disais tout à l'heure, ça oblige aussi, donc il faut tout faire bien comme il faut. Et bon, moi, je suis un peu nouveau, donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu lourd, hein, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Il faut, voilà, tous les devis sont très réglementaires, tout est très bien encadré vu qu'on n'est pas tout seul. Donc ça facilite les choses, mais on est dans un cadre, on a des contraintes, il faut les respecter. Sinon, c'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir des spécialistes en comptabilité, des spécialistes en gestion qui peuvent bien nous aiguiller. Et toujours voilà, dans la bienveillance, quoi. On sent que c'est pas juste une réponse à une question, c'est aussi pour... C'est une réponse intelligente, on va dire, pour faire avancer tout, tout le groupe.
En dehors des chantiers, est-ce que ça apporte quelque chose d'être dans une coopérative? Alors, là, on est sur le plan peut-être un peu plus personnel, mais une entreprise artisanale, un artisan qui est seul, ben c'est vrai qu'il n'a pas la chance de côtoyer des collègues, d'avoir des échanges, tout ça. Est-ce que ça change quelque chose, ça aussi?
Oui, bien sûr. Bah, déjà, comme je disais, par le biais là, de nos rencontres mensuelles, donc ça nous réunit. Donc ça, c'est en dehors du travail, hein, même si... voilà. Et puis, du coup, là, en Créalit, vu qu'on a la chance de dépasser les frontières du bâtiment, moi, j'ai rencontré plein de gens, alors que je suis là depuis pas très longtemps, qui sont d'un milieu complètement différent, qui sont formateurs en intelligence collective, il y a des scénographes, choses comme ça que j'aurais pas rencontré dans grandeur de Créalit, c'est certain. Donc oui, ça apporte. J'ai pas encore participé aux soirées after work de Créalit, mais bon, ça devrait venir. Donc il y a d'autres choses. On a aussi un comité d'entreprise qui a priori organise. Enfin voilà, donc c'est le fait de mutualiser, hein, c'est pas nouveau, ça apporte d'autres possibilités. Donc oui, non, ça apporte des choses.
Tu disais que t'étais assez récent chez Créalit. Ouais. Du coup, tu as peut-être encore la vue du avant-après. Comment tu résumerais
c'est vrai que c'est un peu pour ça que je suis venu chez Créalit. C'est vrai que moi, j'étais déjà auto-entrepreneur depuis une dizaine d'années. Je voulais changer de statut et j'avais fait la formation pour monter une entreprise classique. Et après, sur un chantier, j'ai rencontré quelqu'un qui appartenait à Créalit et qui m'a finalement décidé de venir voir. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu l'environnement, enfin voilà, moi c'est vraiment pour rencontrer du monde. Et puis le fait d'être encadré comme ça par des gens compétents, que ce soit au niveau de la gestion, d'un compétent et bienveillant, ça m'a tout de suite aussi plu, parce que c'est vrai que j'avais fait déjà un rendez-vous d'œil des comptables, et c'était pas du tout la même musique, hein. C'est sûr que là, c'était... moi, c'est vraiment pour ça que donc le avant-après, mon travail n'a pas beaucoup changé, hein, c'est toujours de la toiture et de la zinguerie, mais le cadre est quand même bien plus sympa. Hein.
C'est aussi plein d'autres choses, comme par exemple la possibilité de toucher du doigt des projets un petit peu plus ambitieux. C'est se mettre à plusieurs pour répondre à un projet de recherche pour la rénovation globale au niveau national en collaboration avec le CSTB. Pourquoi on ne profiterait pas de notre expertise, de notre force pour acquérir des biens et les rénover correctement, mais de façon globale, etc., pour après, pourquoi pas, les revendre à des gens qui ont besoin d'accéder à la propriété. Pourquoi pas faire ce que, par exemple, le dernier, je pense à Yann, qui est parti sur un chantier collaboratif en Isère avec d'autres entrepreneurs d'une autre CAE, pour donner de son temps, son expertise pour aider une famille qui avait besoin de rénover énergétiquement son logement. C'est en gros, on peut se permettre de vivre son entrepreneuriat, d'être sécurisé comme un salarié. On peut se permettre aussi de construire l'avenir et de ne pas le subir, d'être acteur de ce qu'on voudra demain. Et je crois que ce choix, cette liberté de vouloir évoluer comme on l'entend et dans la direction que l'on veut, aujourd'hui, c'est quand même très, très, très appréciable de l'avoir, cette liberté, de la conserver, de la cultiver et toujours d'être dans l'idée de construire le monde de demain dans de bonnes conditions.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Je suis maintenant avec Étienne Menorcy, chef de projet à la coordination interministérielle au plan de rénovation énergétique des bâtiments au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
Alors Étienne, on voulait aborder avec toi le rôle d'un nouvel interlocuteur qui entre dans le parcours de rénovation des ménages, qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénove.
Peux-tu nous dire qui est mon accompagnateur Rénov et quel est son rôle dans la rénovation globale?
La rénovation énergétique est d'autant plus quand elle est ambitieuse et qu'elle répond à des volontés d'aller vers la plus de performance énergétique. C'est un processus qui est engageant et qui touche au lieu de vie du ménage, qui traite de la complexité du bâti et qui nécessite de proposer une réponse personnalisée et adaptée aux besoins et à la situation du ménage. Donc il faut pour ça un interlocuteur qui soit un tiers de confiance, qui permette de massifier ces rénovations ambitieuses et de lever le plus efficacement possible les freins qui sont identifiés dans son parcours. À chaque étape, il doit être présent, il doit permettre au ménage de passer plus facilement cette étape et de ne pas s'arrêter dans ce projet. Il a aussi pour fonction de stimuler la demande, d'inciter davantage les Français à se lancer dans ces projets, à relever le niveau d'ambition, de performance, d'efficacité des rénovations qu'ils entreprennent et de simplifier ce parcours tout au long des travaux pour le ménage avec un accompagnement sur plusieurs dimensions. Cet accompagnement, il est technique d'abord, avec la réalisation d'un audit énergétique, des recommandations de scénarios de travaux, l'orientation vers des artisans RGE, l'aide à l'analyse de devis. Il est aussi financier. L'accompagnateur va aider dans la mobilisation des aides financières, va aider à la conception du plan de financement, dans l'accompagnement administratif, peut être parfois complexe pour aller chercher des aides ou aller chercher des prêts ou des solutions de réduction du reste à charge.
Quelles actions concrètes cet accompagnateur Rénov peut-il mener sur son territoire pour rassembler des professionnels qui soient en mesure de répondre à la demande des ménages, puisqu'on va favoriser la demande des ménages vers une rénovation globale? Alors comment l'accompagnateur Rénov peut-il mener des actions sur son territoire tout en restant indépendant des entreprises, puisqu'il s'agit d'un service public qui doit rester neutre?
Il faut rappeler que dans l'agrément, la structure qui veut devenir accompagnateur Rénov doit renseigner un référencement géographique, une zone sur laquelle ses salariés, ses accompagnateurs peuvent intervenir facilement et où ils sont identifiés. Cette condition géographique, elle est extrêmement importante. L'accompagnateur Rénov, il doit pouvoir s'intégrer d'abord dans l'écosystème du service public, être en lien avec l'espace conseil local, travailler de concert avec lui, avec les collectivités. Et au cours de sa mission, lorsqu'il aide le ménage à élaborer son projet de travaux, à identifier les artisans, il doit pouvoir lui fournir une liste des artisans RGE en activité qui répondent aux différents postes de chantier et qui se situent à proximité. On connaît après la difficulté dans certains territoires de trouver aisément un professionnel RGE qui corresponde à ses travaux, à ses choix de travaux. Là aussi, l'accompagnateur Rénov, il doit être en mesure de pousser ses recherches un peu plus loin et d'offrir vraiment le choix et une liste de choix pour le ménage. L'implantation, elle est enfin importante pour connaître les filières locales, par exemple de matériaux, d'équipements, de connaître leur éligibilité pour accéder aux aides, et c'est important. Ce travail de connaissance, il sera précieux pour le ménage lorsqu'il souhaite entrer dans cette démarche de qualité, de matériaux biosourcés, de faire appel davantage au local. Il y a un point essentiel malgré tout dans cette recherche d'artisans, ce lien avec les professionnels, c'est que l'accompagnateur Rénov est un tiers de confiance. C'est une notion extrêmement importante. Et donc pour ça, il doit s'engager à respecter une neutralité vis-à-vis des solutions de chauffage, des différentes solutions de matériaux, etc. Et d'indépendance vis-à-vis d'entreprises d'exécution de chantier. C'est un des points forts au moment où on délivre l'agrément et au moment où on instruit l'agrément pour devenir accompagnateur Rénov. Et les règles, elles sont claires. Mon accompagnateur Rénov ne doit pas être lié avec des entreprises ou des professionnels, et dans des cas assez particuliers, enfin des cas assez précis. Déjà, il ne doit pas proposer de contrat d'exécution de travaux et avoir recours à de la sous-traitance pour exécuter des travaux. Il ne doit pas posséder de partenariat avec des sociétés de travaux, des fournisseurs de matériaux, d'équipements ou d'énergie qui lui apporteraient un intéressement financier. Et surtout, il ne doit pas mettre en avant des entreprises avec lesquelles il pourrait avoir des partenariats via des chartes ou des documents liants. Donc, rester dans cette position de neutralité, c'est présenter, c'est apporter une expertise, c'est apporter une connaissance de l'ensemble des solutions, des professionnels, de donner des clés pour bien conduire les travaux. Mais il faut rappeler que le choix revient toujours au ménage à la fin.
Finalement, un bon accompagnateur rénov, c'est quelqu'un qui connaît bien son territoire autour de lui, qui connaît bien le réseau des professionnels, les forces et les faiblesses de ce réseau professionnel, là où il y a des manques et il faut aller chercher peut-être plus loin. C'est quelqu'un qui se fait connaître aussi peut-être des professionnels pour pouvoir faciliter vis-à-vis des ménages accompagnés la structuration d'une offre globale. Et c'est aussi quelqu'un qui connaît le panel, l'éventail des solutions techniques envisageables pour ne pas fermer des portes techniques auprès du ménage qui l'accompagne.
Merci à toi Étienne pour ces éléments de contexte à propos de mon accompagnateur Rénov.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode d'Enviromicro, l'émission de ceux qui réduisent leurs émissions. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et à donner un j'aime sur votre plateforme d'écoute. Le podcast est réalisé par Envirobat Occitanie. Retrouvez toutes nos ressources en ligne sur www.envirobat-oc.fr.